Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Il y a des gens qui ont consommé, on a des clients qui ont consommé des produits chez nous et qui étaient mais vraiment stupéfaits de la qualité, par la qualité de la viande. Il y a des gens qui, je parle de non-musulmans aussi, qui m'ont dit « j'ai retrouvé le poulet d'antan ».
L'invité de cette semaine est Shakib Hayani, fondateur de la première boutique bio et halal en France. Dans cette conversation, on parle notamment de la viande halal et des problématiques liées aux certifications, de l'importance d'être vigilant sur le halal dans notre consommation, ainsi que de la différence entre la viande conventionnelle et la viande issue de l'agriculture biologique.
Le restaurateur, le boucher ou autre, il ne fait que répondre à la demande. Si tu lui demandes d'avoir une triple certification kasher, halal et bouddhiste, il le fera. Parce que si c'est pour faire tourner son business, il le fera. Et c'est le consommateur qui décide. Tant que le consommateur n'aura pas compris ça et qu'il continuera à se faire berner, et là, le problème, c'est qu'on ne parle pas que d'une paire de baskets, on parle d'un élément fondamental, c'est consommer halal.
Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute.
Salam alaikum, Shakib.
Alaikum salam alaikum.
Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast.
Merci beaucoup, plaisir partagé.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, Shakib Hayani, je suis un ch'ti, je suis né dans le nord de la France, où j'ai passé mes 20 premières années. J'ai aujourd'hui 41 ans, je suis père de 3 petites filles. Mmh. Voilà, et je suis entrepreneur, comme tu le sais.
Alors, tu es le fondateur de Biolal, de la boucherie Biolal. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le concept ?
Bien sûr. Alors, Biolal n'est pas une boucherie, n'est pas en tout cas uniquement une boucherie. Biolal existe depuis 5 ans. C'est une marque qui appartient à la société Terre Ferme. Donc, je suis le fondateur. Et la société avait pour vocation au départ de mettre à disposition des boucheries de France une offre en viande bio et halal certifiée AVS. J'insiste sur ces deux parties parce que la certification, on en parlera peut-être ultérieurement, les questions de certification. Mmh. Et donc, on a commencé par de la distribution et ensuite, on s'est rendu compte au bout d'un certain temps d'exercice que on m'avait prévenu à l'avance, parce que moi, j'étais pas du tout du CRA, je connaissais absolument pas ce marché-là. On m'avait prévenu que j'avais quelques années d'avance sur le marché et que ça allait être un peu compliqué. Donc, ça l'a été effectivement. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au constat que il n'y avait, en tout cas en cette période-là, que Biolal pour vendre du Biolal. Mmh. Et nous avons décidé d'ouvrir une première boutique pilote à Lyon 6e, où le concept n'est pas du tout sur les mêmes codes de la boucherie classique. Quand on vient chez Biolal, la première chose qui étonne les gens, les clients, c'est qu'on retrouve absolument pas les codes de la boucherie. Et c'est une boutique où on retrouve, c'est pour ça que j'utilise rarement le mot boucherie, c'est une boutique où on retrouve les produits d'épicerie fine, des produits en vrac et également une offre en viande. Voilà, donc ça, c'est l'évolution de la société au bout de la deuxième année à peu près. Ensuite, on a été sollicité à travers la France par un certain nombre de consommateurs ou consommateurs qui nous ont demandé d'ouvrir des points de vente un peu partout en France. D'accord. Et comme je suis ni Bill Gates, ni j'ai des banques derrière moi, donc nous avons décidé d'ouvrir un site de vente en ligne qui s'appelle biolal.com où les clients peuvent s'approvisionner directement sur le site et être livrés en 24 heures partout en France, ce qui était et qui reste toujours une prouesse.
Waouh, à l'Amazon.
Exactement. Donc aujourd'hui, la structure Terre Ferme a 3 départements. Le premier, c'est le département B2B, donc professionnel, donc boucherie, on a commencé à travailler avec les magasins Biocoop, la Vie Claire et des boucheries, restaurateurs également. Le deuxième axe de développement, c'est la boutique pilote. Et comme son nom l'indique, c'est une boutique qui est destinée à évaluer la pertinence, la viabilité d'une activité. Mmh. Et la troisième axe, c'est la vente en ligne. Nous sommes aujourd'hui sur la deuxième année. Et c'est une activité, cette troisième partie, l'e-shop. Donc, c'est une activité qui va tendre à se développer, où nous allons devenir un acteur global par rapport à la vente en ligne, sur l'offre en tout cas proposée, pas uniquement sur de la viande, mais sur l'ensemble des produits qu'on peut trouver dans un magasin bio, cosmétiques, épicerie salée, épicerie sucrée, produits frais, fromage, etc.
D'accord. Du coup, moi, la première fois que j'ai découvert Biolal, c'est via l'intermédiaire de mon ami à Lyon. J'étais venu bruncher chez lui. Il avait ramené de la charcuterie. Je lui ai dit de te ramener ça et tout. Il m'a dit, oui, il y a une boucherie bio à Lyon et tout. Et c'était super bon. Ça m'a surpris parce que c'était vraiment bon. Alors, je ne sais pas exactement quel type de charcuterie, mais ça m'avait vraiment étonné. C'était vraiment bon. Et du coup, bon, moi, j'étais de passage à Lyon, donc je n'ai pas eu le temps de visiter ou d'acheter... Donc, tu appelles ça comment? Dans ta boutique, du coup. Mais vraiment, je me suis dit que si j'habitais dans le coin, c'est sûr que je me fournirais de temps en temps là-bas. Donc, comment t'es venu, du coup, l'idée de fonder ce business?
C'est une longue, très longue histoire. Non, je plaisante. En fait, l'idée... C'est un parcours, comme je pense la plupart des idées. Moi, si tu veux, je suis, donc, comme je te l'ai expliqué, je suis né, je ne sais pas si je te l'ai dit ici, je suis né dans le nord de la France, oui. Dans une petite commune. Et c'était pas la petite maison dans la prairie, mais nous, on avait un lien avec les paysans, avec la paysannerie, avec les agriculteurs. Premièrement parce que compte tenu de la situation géographique de la commune où je suis né, et deuxièmement parce que il y avait encore, je sais pas si ça se faisait dans d'autres, si je pense que c'était quelque chose qui était caractéristique à plusieurs villes ou communes de France, on avait pour habitude d'aller chercher notre lait à la ferme, les œufs, le poulet étaient sacrifiés directement à la ferme, etc. Donc il y avait cette espèce de lien qui était entretenu pendant plusieurs années. La deuxième chose, c'est que je passais deux mois de l'année au Maroc pendant mes 20 premières années pratiquement, les 19 premières années ou 18. Deux mois, mais à la campagne. Et la campagne marocaine, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est pas la campagne d'aujourd'hui. C'était vraiment très rude et très déconnecté du monde moderne. Mmh. Et si tu veux, tout ça, après cette expérience-là, après ce vécu, je suis allé à Paris pendant quelques années où j'ai entrepris, j'ai créé une société. Après une période, il faut savoir que j'ai eu une scolarité relativement chaotique. Je me suis ressaisi à partir de 20-21 ans où j'ai voulu reprendre des cours par correspondance pour revalider mon bac avec le CNED et reprendre un cursus. Je l'ai fait pendant 2 ans, ça m'a ennuyé et je suis allé, j'ai pris mon sac à dos, littéralement, et je suis allé à Paris pour me faire les dents, ou en tout cas pour découvrir la vie. Et Dieu merci, ouais, c'était vraiment l'aventure. Dieu merci, après quelques expériences en tant que salarié, j'ai fait des belles rencontres, des rencontres intéressantes sur le plan humain et entrepreneurial. Et j'ai créé une société qui s'appelait Eco-Entreprise et je faisais de l'économie d'entreprise. J'accompagnais les entreprises dans leur démarche de réduction de leurs coûts. Sur deux axes, les frais de fonctionnement et la partie sociale. J'ai fait ça pendant quelques années, dans plusieurs années, et ça m'a permis de rencontrer différentes entreprises et notamment de découvrir le monde du halal, que je ne connaissais absolument pas, parce que certains acteurs étaient mes clients, comme l'association AVS, un acteur qui s'appelait Isla Delis, qui est relativement connu. Enfin voilà, d'autres, en tout cas certains acteurs dans le monde du halal. Et j'ai été agréablement surpris de voir comment fonctionnait notamment l'association AVS. Ça m'avait beaucoup touché sur le plan personnel. Et aussi ça a été un catalyseur aussi sur le plan professionnel, parce que je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie que c'était possible de gérer une structure. C'était pas une entreprise, et ce n'est pas une entreprise en l'occurrence, mais de gérer une structure avec une éthique propre à l'éthique que l'on porte, l'éthique islamique, sur le plan organisationnel, sur le plan financier, etc., sur le plan social. Et j'étais vraiment très surpris.
Ça t'a donné envie ?
Ça m'a donné envie, ouais. Ça m'a donné envie, ça m'a donné espoir. Et ça a vraiment été un catalyseur. Et donc, c'est devenu quasiment un de mes plus gros clients au sein de ce cabinet-là, éco-entreprise.
Alors, juste avant de continuer, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart des gens savent, mais on ne sait jamais. AVS, c'est donc une entreprise dont le rôle est de donner des labels en fait de viande halal.
Absolument, c'est une association de contrôle, et de certification. Et c'est le précurseur dans le domaine. Ils existent depuis 25 ans.
C'est l'un des plus sérieux dans le
marché. C'est l'un des plus sérieux, effectivement. Et donc on a noué des liens relativement forts sur le plan professionnel, mais également humain. Il y a quelques années, ils m'ont sollicité sur un projet, le projet de fabrication, d'élaboration d'un système de contention. Parce que comme tu dois le savoir, en Europe, l'abattage rituel est proscrit. Il y a une dérogation, en tout cas l'abattage, pardon, sans étourdissement est proscrit. Il y a une dérogation pour deux confessions, confession juive et musulmane. Et il y a des conditions à cela. Et une des conditions, c'est de mettre en place des systèmes de contention. Comme le nom l'indique, c'est des systèmes qui permettent de contenir l'animal pendant l'acte de sacrifice. Mmh. Alors, on avance des questions éthiques, mais je n'y crois pas. Je pense que c'est plus des questions de cadence et autres, mais bon. C'est un autre débat et on pourra y revenir.
La condition, c'est qu'il faut tenir les animaux.
En fait, la condition pour ne pas utiliser des systèmes d'étourdissement, d'étourdissement, c'est alors pour la volaille, c'est tremper la tête d'une volaille dans un bac électrifié. Pour les bovins, c'est d'utiliser des matadors, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire de leur tirer une balle dans la tête, une bille dans la tête, qui est relativement violent et contraire à notre éthique, ou en tout cas contraire à nos principes. Et donc, les savants du monde musulman, en majorité, sont d'accord pour dire que l'abattage avec étourdissement n'est pas halal, parce qu'il ne garantit pas que la bête, l'animal, a été tué par le sacrifice, par l'acte sacrificiel, et non pas par ce coup de matador reçu ou l'électrocution pour le système d'électronarcose.
Mais tu disais juste avant que pour les musulmans et les personnes de confession juive, c'est possible de recourir à l'abattage rituel
uniquement s'il y a une mise en place d'un système de contention. Alors, il faut une dérogation pour cela, hein, pour un abattoir, pour pouvoir le faire. Il faut une dérogation. Et pour avoir cette autorisation, parmi les éléments, il faut pouvoir mettre en place un système de contention. Pour la volaille, il faut pouvoir expliquer ou prouver, démontrer que la volaille est contenue pendant le sacrifice.
D'accord.
Voilà. Et donc, on m'a sollicité pour revenir à l'histoire qui m'a amené à Biolal. Et donc, j'ai travaillé sur ce système de contention. Nous sommes allés en Asie avec c'est l'association AVS qui m'avait sollicité pour ça. Nous sommes allés en Asie pour développer ce système. Ça n'a pas abouti. Et finalement, nous l'avons développé en Turquie parce que je connaissais un réseau d'industriels là-bas qui nous ont accompagnés dans le développement de ce système-là. Nous avons développé quelques modules et certains abattoirs ont eu l'autorisation en France de pratiquer l'abattage rituel sans étourdissement grâce en partie à ce système de contention.
Tous les abattoirs doivent avoir recours à un système de contentieux?
Non, tous les abattoirs, ceux qui ne pratiquent pas le halal, n'ont pas de système de contention. Pourquoi? Parce que comme la bête est électrocutée, elle est inerte, oui, donc elle ne bouge pas. Le système de contention vient en remplacement des systèmes d'étourdissement.
D'accord.
Et voilà, on s'est rendu compte par la suite, en étudiant le dossier de plus près, que en fait, il y avait deux problématiques. La première problématique, et ça, Jocelyne Porcher, que je conseille, son livre blanc sur le bien-être animal, je crois, ça s'appelle. C'est une sociologue qui travaille à l'INRA, qui a étudié tous ces problématiques, tous ces mécanismes-là, et le système également industriel. Et donc, parmi les conclusions auxquelles elle est arrivée, c'est que aujourd'hui, tout ce qui peut montrer sur le plan visuel ou auditif qu'il y a une entre guillemets souffrance de l'animal, donc le sang, la gestuelle, le bruit, etc., est proscrit. C'est-à-dire que on veut au maximum démontrer que presque en fait, le poulet qu'on a dans son assiette, en fait, il est élevé comme ça. En fait, c'est des morceaux de poulet, de cuisses de poulet ou de filets de poulet, d'escalopes qui ont été. Et donc, toute la partie élevage, transport, abattage, etc., tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été volontairement cachés ces dernières décennies. Et je pense que tout ça participe à mettre à cloisonner les abattoirs, ce qui est dommage, à cloisonner les abattoirs. Et pourquoi je dis c'est dommage? Premièrement, parce que il serait intéressant de pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs et non pas dans une espèce de... Il y a L214 qui le font parfois, mais à des fins idéologiques.
C'est tous ces documentaires et ces vidéos qu'on voit sur YouTube de massacre.
Absolument. Absolument. Alors, il y a des choses qui sont relativement pertinentes, des choses, comme je te disais, par rapport pour revenir à sur cette association L214 ou autre, il n'y a pas que, qui font un travail intéressant, mais parfois orienté, pour ma part, sur le plan idéologique ou politique. Et donc, le travail de Jocelyne Porcher ou d'autres a démontré qu'en réalité, c'est le système lui-même, intrinsèquement, et violent. Ce n'est pas en mettant en place des systèmes de contention ou en mettant en place d'autres systèmes qui fait que la souffrance animale va être réduite. Je pense que c'est en changeant, en modifiant, enfin voilà, c'est un certain nombre de pratiques sur le plan sociologique, sur le plan de la pratique, sur le plan de l'élevage, sur le plan technique, sur le plan de l'abattage. Le rapport à l'alimentation, etc., qui fait que les choses vont évoluer. Mais voilà, donc une fois cette expérience réalisée, j'ai commencé, on m'a demandé de mettre en place une offre pour le marché halal en France.
D'accord.
Une offre en volaille fraîche. Non bio, hein, en conventionnel, j'appelle ça conventionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était pendant la période de la mise en place, la création du système de contention. Et je l'ai fait. J'ai créé donc une société qui distribuait de la volaille partout en France. On avait créé un système de distribution pour approvisionner donc le marché en volaille fraîche, entière et en découpe. Et ça a été donc le véritable élément déclencheur qui a fait que j'ai créé en parallèle de cette activité là j'ai créé la société Terre Ferme, qui est propriétaire donc de la marque Biolal.
D'accord. C'était quoi la transition entre l'abattage conventionnel et l'élevage biologique?
La transition, c'est pas, c'est, alors c'est, faut savoir que nous, c'est pas nous qui gérons la partie élevage. Nous travaillons avec des éleveurs ou des abattoirs où il y a déjà des mises en place. Je te parle de la partie conventionnelle industrielle. Et la transition s'est faite en développant pardon, une structure parallèle qui va contribuer à apporter une offre, une alternative à l'offre industrielle qui existe déjà. Et donc en faisant appel à d'autres circuits, donc d'autres éleveurs, d'autres abattoirs, et donc un circuit parallèle à celui du circuit industriel. La question, d'accord, à un moment donné s'est posée pour moi, qui avait fourni un travail énorme de mettre en place une offre en volaille conventionnelle. La question s'est posée de cesser cette activité-là et de me consacrer exclusivement à l'offre actuelle, l'offre donc Biolal. La question s'est posée sur le plan plus humain et personnel. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion. Il faut savoir que donc je reste un entrepreneur à l'affût d'opportunités, mais un entrepreneur animé, en tout cas je l'espère, par une éthique, par un système de valeurs, et qui fait que j'ai toujours la ferme intention de faire évoluer les choses. Et donc, j'ai décidé de maintenir l'activité que j'avais développée donc en offre industrielle, mais de développer en parallèle une offre, une alternative à cette offre-là. Pourquoi ? Donc ça a fait l'objet de plusieurs discussions et finalement je me suis rendu compte que dans la religion musulmane on a la notion de l'aulawiyat. L'aulawiyat, ce sont les priorités, la notion de priorité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dans un marché ou dans un pays comme la France, si je prends juste l'exemple de la France, où plus de 80% d'après des études qui ont été faites et notamment par le président actuel de l'association AVS qui a écrit un livre, qui a publié un livre il y a quelques années sur le marché du halal, un livre qui est relativement bien étoffé, un peu plus de 80% aujourd'hui de l'offre n'est pas halal. Et donc on ne peut pas aujourd'hui passer du pas halal, qui est aujourd'hui consommé, je pense que tu dois savoir, ou ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront doivent savoir l'importance pour un musulman de consommer halal. Oui. Et donc, je me suis dit que nous étions aujourd'hui dans cette démarche d'amélioration de la condition, pas de la condition de la communauté, mais en tout cas de la consommation de la communauté. Aujourd'hui, le marché du halal est contrôlé principalement par des personnes extérieures à la communauté et qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, pas forcément les mêmes intentions, et qui ne sont pas animés par les mêmes
économiques seulement.
Absolument, absolument. Et donc j'ai décidé de maintenir en fait les deux activités parce que aujourd'hui, on permet à beaucoup, beaucoup de familles de consommer certes pas des produits issus de l'agriculture biologique, pas des produits issus de certaines, en tout cas pas des produits ou premium, mais qui peuvent consommer des produits en tout cas qui ont été sacrifiés, des viandes qui ont été sacrifiées selon le rite islamique.
Ce que tu dis grosso modo, c'est que l'offre n'est pas assez développée, elle n'est pas assez aussi bon marché, accessible à l'ensemble de la communauté pour espérer passer du jour au lendemain à une offre.
Non, c'est utopiste. L'utopie est nécessaire pour avancer, mais il faut pas être. J'ai failli l'être et Dieu merci. La concertation, mais vraiment avec la concertation avec même différents acteurs du marché. Rigoler presque au nez de savoir que j'allais me consacrer à une offre exclusivement bio pour en faire une activité pérenne, etc., etc. Donc, c'était utopiste. Mmh. Et aussi, un entrepreneur est là pour répondre à une demande, à une problématique. Indépendamment du fait que nous souhaitions changer les choses, il y a aujourd'hui une demande. La demande, elle est relativement noble, j'estime. Parce que les gens cherchent à consommer la ménagère ou n'importe quel consommateur aujourd'hui qui se déplace dans une boucherie pour s'approvisionner en viande, pour amener à sa famille donc, des morceaux de viande pour les consommer. Ils n'ont pas cette conscience en fait, de tout ce qui se passe derrière et tous les enjeux qu'il y a derrière. Pour eux, à partir du moment où le boucher s'appelle Abdelrahman, ou peut-être qu'il a un petit accent qui chantonne et qui lui rappelle le bled, pour lui, c'est halal. Et c'est ce qui nous porte aujourd'hui préjudice. Et c'est ce que je dis très souvent à certains consommateurs. Je dis, ce qui m'étonne, c'est que si je te mets en face aujourd'hui d'un iPhone ou d'une paire de Nike ou d'une paire ou sur un jean, je ne sais pas, Levi's ou n'importe quelle marque, la plupart des gens aujourd'hui sont en mesure, ils sont en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre la copie et l'original. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que lorsqu'il s'agit d'un élément essentiel, même sur le plan spirituel, on ne peut pas, dans la tradition islamique, les invocations d'une personne ne sont pas acceptées, ou en tout cas, la condition pour qu'elles soient acceptées, il faut que ce que l'on consomme soit halal. Donc, c'est un élément quand même fondamental dans la vie d'une personne. Et cette légèreté face à la consommation de viande a fait également, c'était un élément qui m'a permis de continuer en fait sur cette première activité que je t'ai citée. Mais parallèlement à ça, de continuer à développer une offre, une alternative, et d'où la création donc, de Biolal et ce que j'ai expliqué précédemment.
Je me rends compte que ça résonne beaucoup avec mon vécu. L'importance d'avoir du halal à la portée de main. On se dit que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir peut-être du halal et si par exemple on veut être extrême et de dire qu'on peut manger que du bio ou faire attention à l'animal. Mais en ayant parlé avec plusieurs personnes, donc moi j'ai pu travailler, faire des stages par exemple en Asie, au Japon et dans d'autres pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce genre de pays où il n'y a quasiment pas de halal disponible, les musulmans qui ne sont pas vraiment ancrés dans leur religion, bah, ils ont très très facilement abandonné le halal. Quand l'offre n'est pas là et que la personne n'est pas vraiment beaucoup ancrée dans la religion, le halal est très vite abandonné. Et même, je parlais justement il y a peu de temps avec une personne qui me disait qu'à l'époque, quand elles sont arrivées en France, il n'y avait pas beaucoup de halal. Et du coup, elle mangeait quand même la viande parce qu'elle se disait qu'elles avaient besoin de viande, même si c'est discutable. Mais pour dire à quel point l'importance d'avoir de la viande halal pour l'essentiel de la communauté est importante.
Absolument, absolument. Et tu m'as fait penser à une chose qui m'a... J'ai eu un pincement il y a quelques mois, j'étais assis à côté de mon père et on parlait comme ça, je ne sais pas de comment on est arrivé à parler des boucheries, de l'offre en viande, etc. Mmh. Et il me disait, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, de l'abondance quasiment de l'offre qu'il y a aujourd'hui. Quand on est arrivé, il disait en France, dans les années 60-70, c'était la catastrophe. Mais il n'y avait vraiment pas d'offre. Mmh. Et en plus de ça, le vécu de cette première génération qui n'était pas forcément instruit, ce qui n'était pas le cas de mon père, mais malgré ça, il est tombé dans certains pièges. Pas instruit, qui ne savent pas lire. Voilà. Et donc, pour certains, ils sont même allés jusqu'à manger du porc et peut-être parfois même inconsciemment ils rentraient dans une boucherie, ils prenaient un morceau découpé, ils pensaient que c'était une escalope de veau, j'en sais rien, enfin en tout cas c'était très problématique, très très problématique. Mm-hmm. Et aujourd'hui on a cette responsabilité quand même, je ne veux pas me donner plus de responsabilité que je n'ai ou plus d'utilité que je n'ai, mais en tout cas il faut pouvoir faire un pas en arrière pour avoir une vision un peu large, j'ai envie de dire, de la situation, pas uniquement une vision entrepreneuriale, économique, etc., pécuniaire, et se dire que les choses évoluent, alhamdoulilah, les choses évoluent, mais il faut être vigilant parce que lorsque les choses évoluent, elles évoluent certes, mais elles évoluent, que ce soit positivement, mais elles évoluent également négativement. Mmh. Cette abondance d'offres fait que il y a un relâchement aujourd'hui aussi de la part du consommateur et le consommateur n'est vraiment pas attentif et ça, c'est à ce qu'il mange et mais vraiment toute génération confondue, toute classe sociale confondue, j'ai vraiment eu un regard ces dernières années volontairement, j'ai observé certaines pratiques et voilà, j'ai des amis qui sont pratiquants sur le plan religieux, qui ont un niveau social confortable, qui sont instruits, qui ont entendu parler, qui ont accès à l'information, qui ont entendu parler de ces arnaques sur le halal, etc., sur le et qui sont capables de m'inviter à manger un sandwich ou dans un restaurant avec une offre de viande, enfin un restaurant prétendument halal. Et lorsque je leur pose la question, ok, d'accord, on va manger là-bas, mais qu'en est-il du halal ? Et là, voilà, on sent qu'il y a une déconnexion. Et ça, ça me frappe.
Tu veux dire que le restaurant n'est pas halal en soi, ou bien qu'il est halal, mais qu'il a certains labels, pas forcément ?
Je ne dis pas qu'il n'est pas halal, Je dis que le restaurant se prétend être halal, mais oui, il prétend être halal sans certification. Et on ne peut pas. Ce sont des choses tellement aujourd'hui complexes, les circuits d'abattage, de distribution, etc., sont tellement opaques et tellement complexes qu'un restaurateur qui a le souci principal de faire tourner son business ne peut pas s'attarder là-dessus. Donc, il a besoin de faire confiance à un tiers, donc un organisme de certification, pour pouvoir affirmer auprès du consommateur final que son produit est halal. Et donc, si toute la chaîne a fait preuve de légèreté, mais moi, je ne parle pas du commerçant parce que le commerçant, il est animé par des questions financières, etc. Mais le consommateur, je pense que s'il y a des changements qui doivent intervenir, et qu'il y a des changements aujourd'hui, mais s'il doit y avoir un accélérateur de ces changements-là, donc il faut que les consciences soient touchées pour que les pratiques évoluent. Et là, bon, on en est un peu loin, même si Dieu merci, ça évolue quand même un petit peu.
Oui, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi aussi, j'ai été pas mal sensibilisé par rapport à la question donc des labels halal, donc AVS, Shahada et d'autres. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parfois, même quand on est sensibilisé à ça, la réaction des personnes peut être... Alors, je ne sais pas si je ne dis pas que c'est légitime ou illégitime, mais elle peut être que voilà, la responsabilité ne nous incombe pas. C'est la personne qui nous vend cette viande. Donc, même s'il y a un problème dans la viande... ça reviendra sur lui. Qu'est-ce que tu penses de cela ?
Non, mais ça, comme je t'ai dit précédemment, je t'ai dit qu'en fait, ce qui m'étonne, c'est que ce même consommateur, lorsqu'il va acheter un iPhone ou un Samsung ou une paire de baskets ou autre, il fera obligatoirement la différence, sinon il se sentira roulé, la différence entre le vrai du faux. Et ça, c'est la première des choses. Ça m'étonne. En fait, ces deux poids, deux mesures m'étonnent. Alors, il y a des consommateurs qui sont totalement légers dans leur façon de consommer. Et s'il y a une cohérence dans cette légèreté, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a, si tu veux, une exigence à deux vitesses, là, il y a un questionnement, en fait. C'est-à-dire que la problématique est autre. Oui. Le fait de renvoyer la responsabilité à l'acteur économique ou au commerçant. Parce que dans ce cas-là, tu le ferais aussi dans d'autres achats. Et ça, c'est mon premier élément de réponse. La deuxième, je pense qu'il y a un très gros problème d'éducation aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème de sensibilisation, d'éducation au sens familial du terme, Je pense qu'on n'insiste pas suffisamment sur ce genre de choses, sans faire un focus non plus et sans tomber dans l'exagération. Mais je pense qu'il n'y a pas de, sensibilisation de la part des familles. C'est pas un sujet qui est pris au sérieux. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux, le ventre fait partie. Parmi les péchés capitaux, c'est la gourmandise. Donc il y a une question d'éducation. Il y a une question également de. Il y a la question aussi de la mise en avant des médias. Et je pense que les initiatives comme celle-ci contribuent à ça. Il faut pouvoir donner la parole aux acteurs économiques, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent expliquer leurs problématiques et que le consommateur lui-même, parfois c'est un manque d'informations.
Mmh. Par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, il y a un autre cas aussi qui est critiqué, c'est le cas des personnes qui sont vraiment hardcore, entre guillemets, au niveau de la viande, mais qui en dehors de ça sont critiquées dans le sens où on va dire, regardez, ils mangent de la viande, ils font super attention à leur viande, mais à côté, ils font n'importe quoi. Bon, je trouve que ce n'est pas du tout un argument. D'à côté, je comprends les personnes qui se disent, regardez, ces personnes, elles font vraiment attention de manière très limite, j'ai l'impression qu'elles en font trop. Et qui, à côté, elles ne sont pas assez rigoureuses dans des choses plus fondamentales.
Mmh. Tu sais, si on a choisi aujourd'hui, alors je pense qu'elle nous a choisi également, mais si on a choisi la religion musulmane, mmh. ce n'est pas uniquement pour des questions culturelles. Ce n'est pas parce que nos parents sont musulmans. Ce n'est pas parce qu'on a baigné dans un... c'est parce que, en tout cas pour moi, j'ai décelé dans cette religion des éléments fondamentaux pour pouvoir avancer dans cette vie-là de manière équilibrée, pour pouvoir et préparer également son au-delà. Et parmi les choses en fait de la religion musulmane, parmi les comment dire une des caractéristiques de la religion musulmane, c'est le juste milieu. C'est un élément qui est fondamental, ça, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la jurisprudence ou autre. C'est un élément qui est fondamental, là, le juste milieu. Et tu m'as fait penser dans ta remarque à un discours du vendredi. J'avais assisté dans une toute petite mosquée, en fait, il y a plusieurs années. Et je crois que même je démarrais, c'était le moment où je démarrais dans ce marché-là. Je m'étais arrêté pour faire la prière du vendredi. C'était une toute petite mosquée dans la région parisienne. Et l'imam avait fait un prêche autour de la consommation halal. Et il disait, comment se fait-il que vous vous attardiez à ce point à manger halal alors que vous êtes en mesure, en sortant de la boucherie, de manger la viande, la chair de vos frères et sœurs. Donc, entre parenthèses, en faisant de la calomnie ou de la médisance, en pratiquant la calomnie ou la médisance. Et ça, en fait, il mettait l'accent sur quoi ? Pas sur le fait qu'il faut délaisser l'un plus que l'autre ou qu'il faut être équilibré dans sa pratique. Et ce n'est pas parce que certains sont critiquables sur un certain nombre de comportements qu'ils sont critiquables sur leur choix, sur l'ensemble de leur acte. C'est pas tout à fait juste comme analyse. Je comprends qu'on puisse tomber dans cette analyse-là ou dans cette faiblesse-là entre guillemets, mais nul n'est parfait. Et c'est pas la perfection qu'on demande, juste de la cohérence et juste être dans un espèce d'état de conscience. Quelle que soit la chose que je fais, que je sois en état de conscience. Mmh. Je parle bien, en fait, et ça que je sois musulman ou pas. Et cette conscientisation, c'est un élément fondamental, je pense, actuellement et sur ces prochaines années, parce que si on explique aux gens juste ce qu'il faut faire, en leur expliquant, en fait, les modalités du marché, du halal, de l'abattage, de ce que disent les savants sur halal ou pas halal, les gens ne seront pas réceptifs. Et même s'ils sont réceptifs, l'émotion vont faire qu'ils vont l'être pendant le discours. Mais lorsqu'on va être confronté à la situation, il faut des éléments beaucoup plus forts, beaucoup plus marquants pour pouvoir passer à l'acte. Mmh. Et parmi ces éléments-là, bah, c'est le fait de frapper la conscience, toucher les cœurs et la conscience. Et dans ces cas-là, une fois que la personne est consciente de la problématique, consciente de l'importance de manger halal, consciente de l'offre prétendue halal qu'il y a sur le marché, consciente de la faiblesse du boucher et du restaurateur, dans ce cas-là, le consommateur comprendra non pas sa faiblesse, mais sa force, c'est-à-dire la force qu'il a pour changer les choses. Mmh. C'est un acte extrêmement important et fort de voir un père de famille ou un jeune ou un moins jeune ou une femme ou avec ses copines, etc., aller au restaurant, se faire plaisir, mais avoir ce critère, c'est-à-dire je souhaite sélectionner un restaurant qui, en tout cas, a intégré l'importance de cette notion-là, la notion de halal. Pas uniquement des bons plats, pas uniquement du wagyu ou des races à viande super bonnes ou une bonne présentation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autre problématique. Sur le plan sociologique, c'est quelque chose, et sur le plan comportemental, c'est quelque chose de nouveau, ça, cette offre-là. Il y a quelques années, il n'y avait pas cette offre-là en restauration, etc. Donc, cette frustration, si tu veux, on sort d'une espèce de frustration aujourd'hui et on a envie d'en profiter. Et donc, tout ce qui vient nous expliquer que bon, faut quand même faire attention, on peut pas aller nulle part, on peut pas aller partout, pardon, et faire n'importe quoi, ben on le prend peut-être même inconsciemment. Je voudrais pas faire de la psychologie ou de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que les gens sont réticents parce que on vit presque entre guillemets sous la communauté musulmane nos 30 glorieuses, si tu veux, en retard.
Oui. D'ailleurs, tu me disais que c'est un geste fort quand un père de famille, par exemple, décide de vraiment faire attention à ce qu'il donne à manger à ses enfants. Ça peut paraître simple hein, quand on dit comme ça manger halal, mais dans les faits, ça nécessite, comme tu dis, beaucoup d'actions en plus par rapport aux musulmans lambda qui ne font pas attention, c'est-à-dire d'appeler le restaurant, de chercher sur Internet, de vérifier qu'il a le certificat. Parfois même un ami qui t'invite dans un restaurant, lui dire non, je peux pas aller là-bas parce que c'est pas suffisamment strict par rapport à ce que je pense de ce qu'est la viande halal. Ou bien même quand on a une personne non musulmane qui t'invite à un restaurant qui a fait attention à t'inviter dans un restaurant halal, lui dire oui, c'est halal, mais c'est pas vraiment halal. Tu vois, des fois il y a des situations vraiment un peu, je dirais pas embarrassantes parce que c'est pas embarrassant, mais c'est un peu prise de tête des fois.
Ouais. Et tu peux très vite passer pour un extrémiste du halal ou un ayatollah du halal, comme un ayatollah du bio m'a appelé une fois. et si tu veux, regarde, comment peut-on aujourd'hui, donc pour revenir juste au début de la conversation, comment peut-on aujourd'hui prétendre accompagner les gens dans une démarche de consommation plus éthique alors que le halal fait partie de l'éthique, nous sommes, je pense, d'accord. Mmh. Ouais. L'éthique islamique, comment peut-on demander aux gens de consommer des produits plus sains, qui ont eu une alimentation sans OGM, qui ont été élevés 81 jours minimum au lieu de 35-40 jours pour la volaille sur le plan industriel. Ouais. Comment peut-on le passer de cette étape-là à, je pense, donc c'est pour ça que j'expliquais qu'il y a une pédagogie, qu'il y a une sensibilisation, qu'il y a des priorités, qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est de sensibiliser les gens à l'acte d'achat, en tout cas sur le plan alimentaire, qui n'est pas anodin. Il est spirituel, il peut être politique, il peut être, je ne sais pas, il peut être agricole. Manger est un acte agricole, comme disait l'autre. Mmh. Ça fait partie du slogan de Biolal. Manger est un acte agricole. C'est fondamentalement un acte agricole. Bria Savarin, qui était un gastronome lyonnais, disait, comme proche, je cite Bria Savarin alors que j'ai oublié sa citation.
C'est pas grave.
Dis-moi ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Dis-moi je te dirai ce que tu es. Voilà, donc je pense que c'est un élément très important. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, tu voulais peut-être intervenir.
Oui, je voulais juste, enfin, je voulais dire, avant de revenir au bio, je voulais juste te demander, du coup, pour rebondir. On a parlé des cas extrêmes et des cas extrêmes des personnes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, pas assez regardants au niveau du halal. Mais comment on fait pour être, entre guillemets, équilibré dans sa consommation de halal, et quels sont les réflexes et les choses à vérifier pour ne pas être dans l'abus, mais être quand même, faire ses recherches minimum?
Ouais, c'est une question très large, je vais essayer d'y répondre. En fait, il y a différentes choses dans ta question. Si je l'ai bien saisi, ta question, c'est comment aujourd'hui, pour un consommateur, comment faire face à ces différentes problématiques-là qu'on vient de citer pour consommer le plus fidèlement à ses principes.
Oui.
En fait, la première des choses, c'est qu'il faut se rendre compte que la consommation de viande que nous avons abusée et que nous abusons surtout dans nos cultures, alors déjà de manière générale aujourd'hui, mais particulièrement dans nos cultures, il faut réduire impérativement sa consommation de viande. Ça, c'est fondamental. Et ça, si on passe pas, si tu veux, par ça, en tout cas, c'est une des clés de compréhension et un des éléments déclencheurs de ce qui va venir après. Parce que si on explique aux gens qu'il faut consommer plus éthique, mais que finalement leur mode de consommation ou d'alimentation ne change pas, on n'est pas dans l'équilibre qu'on a cité tout à l'heure. Le juste milieu ou l'équilibre qu'on a cité tout à l'heure. Donc, première des choses, c'est ça, c'est être conscient que de la nocivité, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan même environnemental. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de comprendre et l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement économique. Qui fait quoi? Mais vraiment de manière très simpliste. Quels sont les acteurs? Comment est décomposé le marché? Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande des bons, pour les communicants, de faire quelques vidéos. Et ça c'est la responsabilité des associations, que ce soit l'association AVS ou les autres acteurs. Les acteurs économiques également doivent mettre l'accent là-dessus pour expliquer la démarche et la nécessité d'avoir une certification. Et donc, je pense que c'est ces deux éléments-là. Un, la nocivité d'une consommation abusive de viande. Et deux, la nécessité d'avoir un gage de sérieux. Ça, c'est le premier niveau. Après, bon, les différents organismes de certification, etc., je ne pense pas qu'il faille noyer le consommateur aujourd'hui avec ça, ou le perdre avec ça. Mais déjà, voilà, il faut un organisme tiers de certification.
Concrètement, par exemple, toi, comment tu fais quand tu vas dans un restaurant que tu ne connais pas, la première chose que tu fais, tu demandes au cuisinier ou à la réception, est-ce qu'ils ont un certificat?
Absolument, absolument.
Et s'ils n'ont pas de certificat, tu ne consommes pas dans ce restaurant?
Non, je ne consomme pas dans le restaurant. Je peux consommer dans un restaurant qui n'a pas de certification si je connais personnellement le restaurateur et je connais personnellement sa source d'approvisionnement. Mais bon, moi, je suis du métier. Et c'est des choses que je peux vérifier. Mais même sans être du métier. C'est-à-dire qu'on peut, si on connaît personnellement En fait, si tu veux, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler, parce que si on est déjà dans cette démarche-là, c'est une démarche extrêmement positive. Si là, on est juste dans ce parcours-là, en tant que consommateur, on a déjà fait la moitié du chemin. Quel que soit le résultat qui va venir après, on a déjà fait la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'on est déjà en conscience, on consomme en conscience. Pour parler familièrement, on se casse un peu la tête avant de manger son steak. Donc, en fait, il faut s'assurer que c'est halal. Après, si tu as fait toutes les démarches, c'est comme la recherche de la qibla quand tu veux faire la prière. On te dit que c'est dans un endroit où tu ne sais pas comment. Il faut que tu fasses l'effort nécessaire pour rechercher la qibla. Après, si tu te trompes ou si ce n'est pas le cas, on est dans un autre registre. Mais il faut que tu puisses faire cette démarche. Donc, moi, ce que je demande, en tout cas, ce que je pourrais demander, c'est qu'il y ait une démarche réelle, sincère de recherche de la vérité et de mettre l'acteur économique face à ses responsabilités. Et le restaurateur, le boucher ou autre, il ne fait que répondre à la demande. Si tu lui demandes d'avoir une triple certification, kasher, halal et bouddhiste, il le fera. Parce que si c'est pour faire tourner son business, il le fera. Et c'est le consommateur qui décide. Tant que le consommateur n'aura pas compris ça et qu'il continue, il continuera à se faire berner. Et là, le problème, c'est qu'on ne parle pas que d'une paire de baskets. On parle d'un élément fondamental, c'est consommer halal.
D'ailleurs, on le voit dans plusieurs restaurants. De plus en plus, on a des certifications sérieuses qui apparaissent. Et c'est bien la preuve que, et ça vient du fait que justement les consommateurs demandent ce type de certification.
Exact. Non, mais ça vient de deux choses, cette démarche-là. Elle vient du fait que le consommateur est demandeur et le fait que les entrepreneurs sont des entrepreneurs de plus en plus, qui sont conscients de cette problématique-là et qui veulent réussir sur le plan entrepreneurial, mais ne pas perdre sur le plan de leur éthique ou de leurs principes. Donc, ces changements qui s'opèrent aujourd'hui viennent de ces deux démarches.
D'accord, super. On a beaucoup parlé de halal. J'aimerais qu'on parle un peu de bio. Cette notion, moi, elle me fait assez rire parce que, en réalité, le bio, qu'est-ce que c'est? C'est les choses naturelles. Donc, ça me fait rire d'appeler quelque chose de bio quand c'est naturel. Pour moi, on devrait appeler ce qui n'est pas bio, pas bio. Et le bio, c'est la viande normale. Mais bon, ça, c'est une réflexion personnelle.
Non, c'est une réflexion pertinente parce que c'est la norme, c'est les normes qui s'inversent, en fait. C'est juste les normes qui s'inversent.
Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui différencie, du coup, le bio du non-bio, en fait, et les grandes lignes?
Dans les grandes lignes, c'est la première chose, c'est que l'élevage biologique, c'est un élevage en plein air où les bêtes, les animaux ont accès à un parcours extérieur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'alimentation est une alimentation sans OGM, une alimentation naturelle, entre guillemets, pas de produits chimiques, pas d'utilisation de pesticides, etc., sur les prés, en tout cas, ou les zones, ou sur les aliments que vont consommer ces animaux. C'est une croissance plus lente. Donc,
c'est Jean-Philippe qui nous disait dans un podcast, un des derniers podcasts que j'ai sorti, que j'invite les auditeurs à écouter, qui disait justement que les poulets, naturellement, lui, un poulet qu'il nourrit, il m'a dit 3 mois. 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Mmh. Et que les poulets d'abattage mettent 35 jours avant d'être sacrifiés, tués.
Absolument. Donc, c'est ce que je te disais. Donc, on est sur une croissance plus lente. Donc, on est sur 81 jours minimum pour avoir la certification bio. Mais dans les pratiques, on est à 90 jours. Donc, effectivement, il y a une grande différence. Voilà, c'est les différences fondamentales en termes d'élevage. Après, il y a le transport. Pour parler du bio de manière générale, mais également de Biolal et notre relation aux éleveurs, il faut savoir que nous, on a mis en place un réseau d'éleveurs. On a été les premiers, il y a quelques années, à nous déplacer, à rencontrer les éleveurs, mettre en place des filières avec ces derniers. Et je peux te dire qu'ils ont été très, très, très étonnés de cette démarche-là. Parce qu'aller voir des éleveurs dans le fin fond de la France et leur expliquer qu'on est soucieux de leur situation économique, premièrement, c'est la raison pour laquelle on les paye, on les rémunère aujourd'hui suffisamment pour qu'ils puissent vivre de leur activité. Nous sommes séduits par leur démarche parce que nous considérons qu'on est dans une démarche commune. Et tous ces éléments-là font que ça se télescope un petit peu dans leur tête. Tu sais, la France profonde, quand on voit une personne de confession musulmane arriver et parler de ce genre de choses, il y a des choses qui se télescopent. Et moi, c'est ce qui me séduit véritablement aujourd'hui dans cette démarche-là.
Et tu casses la liste des reçus.
Exactement, exactement. Et ça m'a toujours séduit, toujours animé dans ma vie professionnelle. C'est de casser, même dans ma vie personnelle, j'aime aller avec ma famille dans des endroits où on ne nous attend pas, volontairement, pour provoquer, mais pas pour provoquer de manière négative, mais pour provoquer, en fait, provoquer la discussion, provoquer l'échange, provoquer l'étonnement, etc. Parce qu'il faut bien qu'on passe par là à un moment donné pour banaliser les choses. Et donc, la différence fondamentale qui est entre une des différences fondamentales, c'est le rapport qu'entretiennent les éleveurs avec leurs animaux. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas juste des numéros. Ils connaissent le nom de leurs bêtes, ils entretiennent, puisqu'ils sont, sur une croissance lente, sur du bovin ou de l'ovin, ils entretiennent une relation. Une relation intime, une relation en tout cas particulière avec leurs bêtes. Et donc, nous, dans notre démarche, on va mettre en place des filières avec ces éleveurs. On choisit des abattoirs qui sont les plus proches possibles pour éviter le transport des animaux et la souffrance de l'animal. Et ça, ça fait partie également du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et au niveau de l'abattage, eh bien, si pour la volaille, par exemple, on demande à ce que ça soit fait de manière artisanale, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne le fasse sans accrocher les volailles, hein, le faire de la manière la plus artisanale possible.
D'accord. Donc, ça ne cause pas de soucis par rapport aux restrictions
On est dans un système de contention.
C'est le même système. Ouais.
C'est pas le même type de système de contention que dans le que sur le plan industriel. Ce sont des systèmes de contention adaptés au cahier des charges de l'agriculture biologique, mais également adaptés aux demandes qu'on a faites nous aux abattoirs avec lesquels nous travaillons. On s'est rendu compte que on va pas raconter des histoires aux consommateurs. Le fait ou se raconter des histoires à nous-mêmes. Le fait de faire appel aujourd'hui à des abattoirs industriel rend extrêmement compliqué la démarche ou incomplète cette démarche éthique. D'où le fait que nous ayons beaucoup discuté avec la Confédération paysanne, nous, Biolal, ces dernières années, et des activités, des initiatives pour l'abattage à la ferme. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler de ce genre d'initiative.
Non.
En fait, c'est un abattoir mobile qui a été développé en Suède et qui permet aux éleveurs de faire l'abattage directement dans leur ferme. Donc, plus besoin d'amener leur bête.
Ça réduit à zéro la distance.
Absolument. Ça réduit à zéro la distance, mais surtout la souffrance et la qualité de la viande. La qualité de beaucoup de bouchers renommés, et Yves-Marie Le Bourdonnec notamment, avec qui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce boucher, Yves-Marie Le Bourdonnec, qui a fait un peu l'actualité il y a quelques années, parce qu'il était passé avec Robert Ménard sur NCI, je crois, et qui avait fait la promotion de l'abattage rituel. Pourquoi ? Parce qu'il disait que c'est le meilleur moyen de ne pas faire souffrir l'animal. Et Ménard s'était insurgé. Mais vous faites la promotion du halal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a dit, non, calme-toi. Calme-toi. Je te dis juste que il faut dire aux consommateurs que l'étourdissement, c'est tremper la tête d'une volaille. Parce qu'on l'appelle étourdissement, mais on ne lui chante pas une berceuse. On trempe quand même la tête d'une volaille dans un bac électrifié et on met quand même une balle dans la tête au bovin. Et tout ça pour te dire que en fait cette réduction du stress ou de la souffrance, c'est un élément qui est recherché aussi par ceux qui ne sont pas uniquement animés par l'éthique mais par la qualité, parce que un animal qui stresse, un animal qui rejette des substances, son taux de pH augmente, etc., ce qui fait que
l'adrénaline,
c'est ça, oui, et ce qui fait que la qualité de la viande en pâtit. Et donc, d'où cette initiative suédoise de faire l'abattage à la ferme. Ça s'appelle Bœuf éthique, je crois. C'est en cours de discussion en France. Mais tout ça pour dire que pour compléter la démarche, il faudrait que l'abattage puisse se faire à la ferme. Ce n'est aujourd'hui pas techniquement possible. Donc, en attendant, nous mettons en place un certain nombre de mesures avec les abattoirs avec lesquels nous travaillons sur les horaires d'arrivée de nos bêtes, pas d'attente, pas de stress, etc. En étant conscient qu'il y a encore du chemin à parcourir.
Et du coup, en termes de qualité de la viande qui arrive sur le repas, c'est quoi les différences entre la et de viande?
Alors déjà les qualités organoleptiques d'une viande bio et une viande non bio ne sont absolument pas les mêmes. Premièrement. Deuxièmement, la tendreté. Une viande, un bœuf qui a consommé principalement de l'herbe du pré, qui a été nourri à l'herbe, ou une volaille aussi, parce que la volaille consomme aussi pas uniquement des grains, mais pendant son parcours ou quand elle est élevée à l'extérieur, elle consomme toutes les petites bestioles, etc. Et donc tous ces éléments-là font qu'on retrouve une qualité organoleptique exceptionnelle, un grain de viande exceptionnel, une tendreté exceptionnelle qu'on ne retrouvera jamais dans le milieu industriel. Jamais. Ce sont deux approches totalement différentes. Il y a des gens qui ont consommé, des clients qui ont consommé des produits chez nous et qui étaient vraiment stupéfaits par la qualité de la viande. Il y a des gens qui, je parle de non-musulmans aussi, qui m'ont dit « j'ai retrouvé le poulet d'antan ». Il faut savoir qu'on travaille avec des petits faiseurs, des petits agriculteurs qui font un travail d'orfèvre, mais vraiment d'orfèvre. Et c'est même pas, en fait, le mérite ne revient même pas à Biolal en réalité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant le travail de ces gens-là. Et c'est ce qu'on a décidé de faire ces dernières années, ces derniers mois, et ce qu'on va faire ces prochains mois et prochaines années, c'est mettre au maximum en avant le travail de ces éleveurs. Parce qu'on leur doit, et deux, pour participer à ce travail de conscientisation du consommateur et pour qu'il sache d'où ça vient et quels efforts sont déployés par un éleveur pour que lui puisse manger son bon poulet rôti en famille.
Pour finir, je voudrais parler du coup de la différence de prix. Par rapport au prix, du coup, c'est un ratio de combien par rapport à la viande conventionnelle ?
Alors, tout dépend des espèces, mais on est sur 35%, 35-40% de plus que le conventionnel. Et encore une fois, le conventionnel, tout dépend de la référence. Si la référence est de la viande polonaise ou de la viande roumaine, parce qu'il y a parfois des gens qui font le comparatif, mais les éléments de comparaison ne sont pas justes. Donc, si on est sur une offre de viande française, certes industrielle, mais qui répond à un certain nombre de cahiers des charges. Mais aujourd'hui, on peut trouver une offre. On peut trouver une offre à 35-45% de plus que le conventionnel. En tout cas, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met en face. Tout dépend des éléments de comparaison.
Oui, bien sûr. Il n'y a pas une seule offre.
Non, absolument. Parce que si la référence, c'est les boucheries halal de quartier, qui font des promotions tous les jours. Donc là, on est sur du 200%.
Oui, évidemment. Alors là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Je vais te demander justement, avant de terminer, deux, trois questions. Donc là, on est toujours en période de coronavirus, Covid-19. Comment est-ce que le business affecte, comment est-ce que le coronavirus, pardon, affecte ton business?
Il a affecté de différentes manières. Il a affecté par le fait qu'il y a eu une cohue. En fait, il y a eu une consommation déraisonnable de la part des citoyens, de la part des consommateurs, ce qui a créé un déséquilibre sur le plan organisationnel, sur le plan aussi de la disponibilité logistique, etc. Ça peut paraître comme une opportunité, mais c'est quelque chose qui impacte aussi le fonctionnement d'une entreprise, parce que l'entreprise a pour vocation de satisfaire ses clients. Et quand tu vois que tu ne peux pas les satisfaire parce que la demande est irrationnelle, ça crée une insatisfaction, une frustration.
Mais voilà. J'ai mon ami qui m'a dit, je ne vais pas te faire de la mauvaise pub, mais qui m'a dit qu'il a essayé de commander récemment et que ça lui mettait 10 jours
à recevoir sa viande. Absolument. Absolument. Alors, d'où le fait, en fait si tu veux, le délai. Aujourd'hui, il y a depuis deux ans, le délai pour approvisionner nos clients partout en France était de 24-48 heures maximum. Oui. Sauf quand il y a une
incroyable, c'est incroyable. Enfin, je trouve Surtout que c'est pas les deux. Enfin, c'est pas Amazon qui vient vous livrer. Enfin, je sais pas comment vous faites livrer, mais j'imagine qu'il n'y a pas des
partout. Ouais, faut savoir j'ai une expérience en fait dans la vente en ligne. J'avais un site qui s'appelait gopneu.com que j'ai vendu il y a quelques années, il y a plusieurs années, et je faisais de la vente en ligne en fait de pneus pour les particuliers et les professionnels. Et j'ai une certaine expérience dans la vente en ligne, ce qui a fait que j'ai pu lancer cette activité-là, en tout cas ce troisième département, assez rapidement. Et je me réjouis d'être qu'on soit les précurseurs aujourd'hui sur ce créneau. Mmh. Donc le préjudice il est là-dessus. La deuxième chose c'est l'indisponibilité de certains collaborateurs par rapport au télétravail, par rapport au fait que s'ils ont côtoyé, moi j'ai l'exemple d'un collaborateur qui a côtoyé une personne qui était infecté, donc on a dû le mettre en quarantaine. Oui. Et donc tout ça déséquilibre sur le plan humain. Donc c'est de cette manière-là que ça nous a impacté.
D'accord. Et votre clientèle, elle est composée de principalement de musulmans, j'imagine, mais pas que de musulmans.
Ça c'est vraiment quelque chose le caractère halal, je n'aime pas trop. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, très souvent. Mm-hmm. Je peux le comprendre. Dans certains quartiers, il faut rassurer, etc. etc. Mais c'est quelque chose que je refuse totalement parce que c'est quelque chose qui est propre à notre éthique, qui est personnel. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu trop halaliser Biolal sur le plan de la communication. Pourquoi ? Parce que on est français. On propose des produits français, des produits du terroir, on met en avant un savoir-faire. Et donc tout ça.
Tu veux pas communautariser en fait
absolument pas. Et c'est ce que souhaiteraient certains de nos détracteurs. C'est ce qui arrange souvent, c'est qu'on soit toujours dans cette répétition sans cesse de nos appartenances respectives. Et ça, il faut sortir, je pense, de cet élément-là. De ce paradigme et alors sur le plan si tu veux humain etc c'est super intéressant mais aussi sur le plan business parce que ça ouvre des portes, des opportunités etc. Donc aujourd'hui pour répondre à ta question, notre clientèle est composée effectivement principalement de musulmans, mais ce n'est pas une écrasante majorité.
D'accord. Et ça, c'est pas non plus une volonté d'avoir que les musulmans. Justement, c'est d'être ouvert.
Pas du tout. Pas du tout. On est là pour servir. D'utiliser des grandes phrases ou des grands mots. On est là pour servir l'humanité. On n'est pas là pour servir exclusivement à la communauté musulmane. On est là pour apporter des changements qui vont impacter le monde. Je l'espère en tant qu'entrepreneur. C'est parce qu'on porte une éthique quelle qu'elle soit, si c'est le leitmotiv, c'est ça, tant mieux. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir des clients en boutique ou en vente en ligne qui ne sont pas de confession musulmane. Alors c'est plus difficile de les identifier sur la vente en ligne, comme on a un service client qui communique beaucoup avec nos clients, on a ce genre de retour. Mais 40% de nos clients en boutique ne sont pas de confession musulmane, ce sont des types bourgeois du 6e arrondissement qui sont très contents de consommer de la viande biolal et très contents de rencontrer parfois, parce qu'on fait des ateliers, on amène nos éleveurs et on invite nos clients pour qu'il y ait un échange. Mmh. Et au final, les barrières tombent.
Je suis super content de ce type d'initiative. Je trouve que c'est quelque chose de super. Et puis, ça fait partie, malgré ce qu'on peut penser, contre-intuitivement, je pense que c'est une meilleure da'wa que de faire quelque chose de communautaire où les gens qui sont accueillis sont que musulmans. Et donc, on se retrouve qu'entre nous et on n'apporte pas grand-chose au reste de la société. Pour finir, est-ce que tu as un ou plusieurs livres à recommander qui t'ont particulièrement marqué?
Alors des livres qui m'ont marqué dans ce domaine-là.
Ça peut être dans ce domaine et ou dans un autre domaine.
Alors, des livres dans ce domaine. Alors, il y a deux livres que je pourrais préconiser, celui de Jocelyne Porcher, mmh. Le livre blanc du bien-être animal, qui est un super livre. Une recherche vraiment scientifique et sociologique très, très intéressante. Mmh. Et celui de Fethullah Othmani, oui. Sur le marché du halal.
Voilà, je savais pas qu'il avait écrit un livre.
Il a écrit un livre, je crois qu'il l'a co-écrit avec Brahmi, Mustafa Brahmi, je crois, je me souviens plus.
Mustafa Brahmi, ok, bah, je l'ai interviewé, Mustafa Brahmi. Je vérifierai, d'accord. Super, ouais, bah, merci en description. Bah, écoute, Chakib, je te remercie beaucoup. Si on veut suivre, du coup, Biolal, vous avez un site internet
Oui, site internet, réseaux sociaux.
D'accord. Vous avez des réseaux sociaux, vous avez une newsletter ou...
Absolument, on peut s'inscrire sur LinkedIn, absolument.
Ok, super, bah, je mettrai ça dans la description, même si c'est facile à retrouver, je pense. écoute, Chakib, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne fin de confinement et une bonne continuation pour ton aventure, Inch'Allah.
Merci beaucoup, merci infiniment et bravo pour ton initiative. Félicitations, bonne continuation à toi aussi.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.